D'accord. Alors, ce matin, comme vous le savez d'ailleurs, nous allons parler du baptême chrétien. Et quelle est sa signification? Vous allez me dire, bien, il y a le baptême chrétien. Moi, j'ai été baptisé, puis je suis allé l'enfer, puis je ne m'en rappelle pas, puis. Pourquoi vous appelez ça le baptême chrétien? C'est quoi? C'est quoi que ça signifie? Bien, ce matin, ce que j'aimerais faire, c'est d'expliquer ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire quant à la nature et la signification du baptême chrétien. Le mot grec qui exprime l'idée de baptiser, c'est baptizen ou baptizo, qui veut dire submerger, plonger. Et ce mot n'a jamais eu le sens de juste verser ou d'asperger. Dans le Nouveau Testament, ce mot-là est employé dans le sens de laver. Et j'imagine que lorsque vous prenez votre bain, vous lavez tout votre corps. Hein? Jean-Baptiste, lui, n'a jamais administré le baptême d'aspersion, mais seulement le baptême par immersion. Et ça, ça ne fait aucun doute. Lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on regarde, il y avait toujours beaucoup d'eau. Et beaucoup de monde venait à Jean-Baptiste. Et il les baptisait dans le Jourdain. C'était dans une ville qui était nommée Énon. Pourquoi Énon? Parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Et on voit ça dans Jean 3, verset 23. Maintenant, quel sens aurait eu comme symbole le baptême de repentance pour la rémission des péchés, que l'on voit dans Marc, chapitre 1, verset 4, et dans Luc, chapitre 3, verset 3. Quel sens ça aurait si le baptisé n'avait pas été submergé, juste aspergé, et au sens figuré qui correspond à complètement purifié? Toutefois, comme on va le voir, le baptême c'est juste un symbole. Il n'y a absolument rien qui vient avec ça. Il n'y a pas de puissance divine spéciale. Le baptême, ce n'est pas ça qui sauve. Le baptême, c'est un symbole. Ça nous montre visuellement ce qui s'est passé dans la vie de la personne. Lorsque Lise a été couchée dans l'eau, ça signifiait qu'elle était morte. Avant sa conversion, Lise était morte. Lorsque on la relève, c'est qu'elle revient à la vie. Elle participe à cette résurrection-là, celle que Christ a eue et qu'il a promis à tous ceux qui croiraient en lui. Donc, notre sœur, dans une image qu'on peut voir, démontre par le baptême ce qui s'est passé dans sa vie. Toutefois, comme on l'a vu, le baptême a une autre signification. Le baptême chrétien se pratique en mémoire de notre Seigneur, qui est mort sur la croix et qui, trois jours après, est ressuscité. Donc, le baptême n'a pas pu être institué. constitué avant la mort de Jésus. Et seulement après sa mort. Et seulement après sa résurrection, la même chose. Donc, c'est pourquoi il y en est question pour la première fois lors de la dernière rencontre de Jésus, Jésus ressuscité avec ses disciples sur la montagne de Galilée, où là, il leur avait donné un rendez-vous. Et pour cela, on voit ça dans Matthieu, chapitre 26, verset 32, et Matthieu 28, verset 16. Et à partir de là, le Seigneur Jésus a envoyé les 11 apôtres dans le monde entier avec la mission de faire des disciples. Faire des disciples de toutes les nations. Comment? Bien, simplement en leur parlant de celui qui était le Seigneur Jésus. Maintenant, au milieu de son peuple terrestre, mais qui avait été rejeté par les siens, les Juifs ont rejeté Jésus, et à qui Dieu avait maintenant donné toute autorité dans le ciel et sur la terre, et tout cela afin que puisse être amené au salut et à la vie les nations qui étaient dans les ténèbres. On vit dans un monde de ténèbres. Ceux qui sont autour de nous et qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus sont dans les ténèbres. Donc, pour les apôtres, Christ les a envoyés dans les nations étrangères à la vie de Dieu. Allez, faites des nations, de toutes les nations, des disciples. Toute une mission. Et vous savez, ce sont des paroles qui sont merveilleuses. Hein? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Elles nous révèlent leur plénitude. Ce n'est pas des paroles simples, ce n'est pas des paroles en l'air. C'est des paroles qui disent de quoi. Elles nous révèlent les choses nouvelles de la grâce. Les conseils éternels de Dieu en relation avec son Fils, le Fils de l'homme, qui est ressuscité et qui est glorifié. Ces paroles-là nous montrent l'immense changement qui venait de se produire. Lorsque Lise a reçu le Seigneur Jésus dans sa vie a changé. Des fois, c'est des changements spectaculaires, mais des fois, c'est des changements graduels. Mais le Seigneur lui a fait faire un 180 degrés et s'en allait en direction, pardonnez-moi, de l'enfer. Maintenant, elle marche avec son Dieu pour le ciel. C'est un changement qui se produit dans la vie du chrétien lorsque cette personne-là reçoit le Seigneur Jésus dans sa vie. Ce qu'on a voulu illustrer ce matin, c'est justement ce qui se passe. Elle était morte. Et maintenant, par l'Esprit Saint, elle est revenue à la vie. Les choses vieilles, le système qu'on appelle légaliste de la loi, il est fini, passé. Et l'aube d'un jour nouveau commence. Dans le baptême chrétien, on y trouve avant tout le nom de Jésus dans son entière révélation, comme Père, Fils et Saint-Esprit. Et les envoyés du Seigneur Il y a eu les 11 disciples maintenant. C'est tous ceux qui sont chrétiens. Le Seigneur vous envoie. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit enseigner ce que Jésus, le Fils de l'homme lui-même, a ordonné. Dans les Actes des Apôtres. Si vous avez une bonne lecture à faire, c'est le livre des Actes. Où c'est le début de l'Église. Ça commence. Et ça explose. Parce qu'il y a des conversions qui se passent. Donc, dans le livre des Actes des Apôtres, le baptême est mis en relation avec la personne du Seigneur. Quand le baptême est mentionné pour la première fois dans Acte 2, au verset 38, Pierre dit aux Juifs, « Repentez-vous. Demandez pardon à Dieu et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ en rémission des péchés. » Ici, ce que l'Église chrétienne doit dire. Quand on parle de salut, ce n'est pas un salut bonbon. C'est pas juste une petite prière qu'on fait, puis après ça, merci beaucoup, bonjour, la vie est belle, j'oublie tout, et je recommence à la même place que j'étais. Non. Le baptême est mis en relation avec la personne du Seigneur Jésus. Et quand le baptême est mentionné, comme j'ai dit tantôt pour la première fois, les paroles de Pierre sont « Repentez-vous. Demandez pardon pour vos péchés. » Le Seigneur ne demande pas qu'on aille dans une petite boîte et demander pardon. On a un accès direct avec le Père. Notre Père céleste. Et là, on dit, Seigneur, je te demande pardon. Je me repens d'une vie qui a été, malheureusement, sabotée par le péché. Maintenant, moi, je crois que je suis, ou que mes péchés sont lavés complètement. Par le sang de Christ qui est mort sur la croix pour mes péchés. J'y crois. Puis je veux marcher. Bon, excusez-moi, là, il y a quelque chose qui se passe. Le fameux téléphone-là, hein? Donc, repentez-vous. Il faut se repentir. Et ensuite de se croire par la foi que Christ est mort pour moi. Christ a payé ma dette. J'avais une dette. Vous connaissez ce que c'est des dettes? Maintenant, elle est payée. Hein? Quand on arrive là, avec le dernier paiement à faire, là, on est-tu content? Mais on ne voit plus rien. C'est merveilleux. Dans Actes, au chapitre 8, verset 6, on lit au sujet des croyants, des Samaritains, qu'ils avaient été baptisés par le nom du Seigneur Jésus. Et dans la maison du centurion Corneille, le Romain, qui était à Césarée, Pierre commande de baptiser au nom du Seigneur Jésus tous ceux qui venaient de recevoir la parole de Dieu par la foi. Et les disciples que Paul, l'apôtre Paul, a rencontrés à Éphèse, bien eux aussi ont été baptisés par le nom du Seigneur Jésus. On voit ça dans Actes 19, au verset 5. Ananias a exhorté, a encouragé Saul. Saul, c'est devenu Paul. Il l'a encouragé à être baptisé et lavé de ses péchés en invoquant le nom du Seigneur Jésus, le nom de Jésus qui lui était apparu sur le chemin de Damas. Paul s'en allait détruire ou martyriser les chrétiens de Damas. Le Seigneur a dit, wow, c'est ça. C'est fini. Ça s'arrête là. Et dans les messages, les passages, c'est-à-dire, qui sont mentionnés jusqu'ici, indiquent que le baptême, c'est un symbole de la rémission et de la purification des péchés. Tout cela s'est passé dans le cœur de Lise, dans le cœur de tous ceux qui ont été baptisés dans l'immersion. Nos péchés sont pardonnés. Nos péchés sont pardonnés. Wow! Pierre annonçait cette rémission à tous ceux dont le cœur avait été vivement touché et qui demandaient sincèrement, qu'est-ce qu'on va faire? Que ferons-nous? Acte 2, 37. Et pour eux, tout était perdu en tant que juif. Et quant aux relations qu'ils avaient avec, qu'ils ont eues, c'est-à-dire avec Dieu, il ne restait plus que la condamnation pour cette génération perverse. C'était ça leur espérance, être condamnés. Ils ne pouvaient plus échapper à cette condamnation-là qu'en se convertissant de tout leur cœur dans une contrition et une repentance sincère. C'était ça qui restait. Plus d'espoir. Pour ceux que Dieu avait élevés à sa droite, le baptême au nom de Jésus-Christ, le baptême pour la rémission des péchés, était le signe extérieur pour la rémission des péchés, le signe extérieur de cette conversion-là et de leur désir sincère d'être sauvés de cette génération perverse, celle d'Israël. D'être mis en relation avec Christ, d'être introduit sur le terrain nouveau que la grâce de Dieu venait de créer avec l'Église. À ceci va s'ajouter la sainteté. Et personne n'a le droit d'y entrer, sauf ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés par la foi en l'œuvre accomplie par le Christ et qu'il n'est déclaré par le baptême et purifié. On remarque, c'est important de le dire, que le don du Saint-Esprit est promis comme étant la confirmation de la rémission des péchés obtenus par la foi et confessé dans le baptême. Quand on est dans la maison de Corneille, les premiers croyants y ont accepté par la foi la parole de la croix, la parole de Dieu, la parole du salut. On lit l'Esprit Saint tomba sur eux, sur tous ceux qui entendaient la parole. Cet esprit, pour deux mois après, ça prenait le Dieu, l'Esprit Saint, pour réveiller cette personne morte à cause du péché. Et là, Pierre commande qu'il soit baptisé, que les gens soient baptisés, tous ceux qui ont cru par la foi. Donc, qui aurait pu refuser l'eau du baptême à des gens qui venaient de recevoir le Saint-Esprit? C'est là qu'on reçoit l'Esprit Saint. Lorsque Dieu touche mon cœur. Pas après. Il n'y a pas de deuxième conversion. En Romains 6, versets 3 et 4. En réponse à la question de savoir si nous qui sommes morts au péché, nous pouvons demeurer dans le péché pour que la grâce de Dieu abonde. Parce qu'on avait lu que là où il y a le péché, la grâce de Dieu abonde. Paul va dire ceci. Il le dit avec force. Il répond, en aucune manière. Ignorez-vous, leur demande-t-il, que nous tous qui avons été baptisés par le Christ Jésus, nous avons été baptisés en sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême pour la mort, afin que comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts pour la gloire du Père, ainsi, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Ça vaut le temps, ça vaut la peine de reprendre seul chez soi ce verset-là, ces deux versets-là, Romains 6, versets 3 et 4. Hein, quand on parle de sonder les Écritures, d'examiner, ça vaut la peine. On ne peut pas déclarer avec plus de clarté et de précision que le baptême chrétien est fondé sur la mort de Jésus-Christ, c'est-à-dire sur un rédempteur, un sauveur crucifié et mort. Verset 6, un peu plus loin du chapitre 6 de l'Épître aux Romains, Paul dit, en s'identifiant aux croyants de Rome, « Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui. » C'est ça qui est représenté dans les autres baptêmes. Notre vieil homme, notre vieille personne est couchée dans l'eau. On enterre notre vieil homme et on devient crucifié avec lui. Avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que Dieu nous considère maintenant, quant à notre état antérieur, comme étant mort avec le Christ. Afin que ce corps de péché-là soit annulé. Qu'est-ce qu'on fait d'un mort? Compliqué, hein? On l'enlève. On l'ensevelit. Et c'est précisément ce que représente le baptême chrétien. L'immersion du baptisé dans les eaux. Et le fait qu'il soit submergé dans l'eau, c'est ça le témoignage frappant. C'est ça le symbole éloquent de sa mort et de son ensevelissement avec Christ. Et à la sortie de l'eau, c'est le symbole de la résurrection avec lui. Lorsque le Seigneur va revenir, Il ne reviendra pas sur la terre, mais il va descendre. Et nous, nous allons monter vers lui. Premièrement, les morts en Christ, ceux qui sont morts, sauvés. Et ceux qui sont sauvés sur la terre vont aller vers lui. Et ce qui est fantastique, c'est qu'on va être avec lui pour l'éternité. Après notre baptême, nous sommes encouragés. Il faut marcher en nouveauté de vie. C'est-à-dire que ce que je faisais avant, là, qui était mal, ça ne marche pas. On est appelé à marcher en nouveauté de vie et d'être qualifié pour le faire. Romains 6, verset 4. Et ceci, ce n'est pas quelque chose qui nous est imposé comme un commandement. On trouve aucunement un « tu dois faire ci ». Non. Le fait que le Christ a été ressuscité pour la gloire du Père, Paul dit, il en déduit au moins, que le fait que nous qui avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, nous ne restons pas dans la tombe, mais nous marchons maintenant comme des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, ressuscitées. Je l'ai dit souvent que, malheureusement, lorsqu'on pose la question à des personnes sur où ils vont passer l'éternité, je me souviens d'un homme âgé qui m'a dit « 6 pieds sous terre ». Aucune espérance. Aucune foi dans la résurrection. C'est pour ça que le baptême est présent. Lorsqu'on a été relevé, c'est parce qu'on a été ressuscité avec le Christ. Et ce fait grandiose, magnifique, s'exprime dans le baptême. Hein? C'est la signification. Au sens figuré, évidemment, qui n'a pas changé au cours des siècles. Jusqu'à quel point chaque croyant réalise-t-il la signification et aussi l'efficacité du baptême dans sa vie pratique? Pourquoi faut-il que je me fasse baptiser? C'est une autre question, il faut penser. Celui qui ne prend pas au sérieux le péché, qui laisse sa vieille nature agir. Hein? Enfin, celui qui oublie qu'il est mort une fois pour toutes au péché et qu'à cause de cela, il ne devrait plus vivre en aucune manière dans le péché et pour Dieu en Jésus-Christ. Cette personne-là a besoin d'être rappelée à la signification du baptême. Le baptême doit voir tout ce qui est du vieil homme avec ses convoitises trompeuses laissées dans la tombe du Christ. En tant qu'ensevelis pour le baptême dans la mort, en laissant tout ce qu'il était auparavant au jugement de Dieu, l'enfant de Dieu doit apprendre à tous les jours tout ce qui implique le fait de marcher en nouveauté de vie. Et c'est ça, un apprentissage dans le service de Christ, à qui il appartient désormais, par qui il est enseigné. Les croyants sont devenus la propriété de Christ. J'appartiens à Christ. C'est le croyant-là, au verset 10 de Romains 6, est mort une fois pour toutes au péché, mais en ce qu'il vit, il vit en Dieu. Dans le baptême, excusez-moi, j'ai la bouche sèche. Dans le baptême, le baptisé a revêtu le Christ. Et désormais, en parole et en œuvre et dans tout son être, il ne devrait manifester que le Christ et rien d'autre. Pour tous ceux et celles qui ne sont pas nés de nouveau, ou bien qui n'ont pas encore obéi à la parole du Seigneur, qui commande le baptême chrétien, voici quelques passages bibliques qui s'y rapportent. Et Actes 2, 38. Je commence toujours par ce qui est la repentance. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est la première chose à faire. Et après ça, il faut croire. Dans Actes 8, 16, on remarque que Luc, l'auteur des Actes, nous dit « Ils avaient été baptisés pour le nom du Seigneur Jésus. » Et ça revient souvent. Pierre le dit dans Actes 10, 48. « Il commanda qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur Jésus. » Et dans Actes 19, 5, « Ils ont été baptisés par le nom du Seigneur Jésus. » Maintenant, qu'est-ce qui tarde à te faire baptiser? Acte 22, 16. On peut lire, « Lève-toi et sois baptisé, lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. » Ce qui en ressort ici clairement dans ces passages de la Bible, que dans les actes, surtout dans les actes, le baptême était accompli au nom du Seigneur Jésus. Cela va nous amener à une vérité très importante qu'on veut dire au sujet du baptême. C'est le baptême pour le nom de Jésus, car comme tel, le Seigneur, celui qui est oint, le roi des rois, le Messie, notre Sauveur, c'est ça que le Seigneur nous demande. C'est ça l'obéissance que le Seigneur demande. Ce nom est en rapport avec le baptême pour le royaume. Le royaume que les évangiles ont pour objet. Par là, on arrive, c'est-à-dire, à la véritable signification du baptême chrétien dans les actes. C'est le baptême pour Jésus, la confession d'un nom rejeté par ce monde qui le couvre d'opprobre et de mépris. Vous savez, le nom de Jésus, c'est le nom le plus haï dans le monde entier. Il va en être de même pendant toute cette période qu'on appelle une période de grâce, parce qu'il est encore temps d'être sauvé. Après, sans vouloir imposer et dire qu'il va être trop tard, si tu es sauvé dans cette période-là qu'on appelle la période des tribulations, eh bien, tu vas payer de ta vie. Jusqu'à ce que Israël soit régénéré et renouvelé, reconnaisse le Christ, le roi des rois. Ça va prendre ce temps-là. Alors, non seulement Israël, mais toute la terre va être soumise à Christ. Et la confession du nom du Seigneur Jésus, ça ne sera plus comme aujourd'hui. C'est-à-dire, ça ne sera pas plus lié à la honte et au mépris, ou même à la persécution, puis à la mort du martyr. Le nom de Jésus sera lié à l'honneur et à la gloire qui convient à celui qui règnera en paix et en justice. Tout va être changé. Tout va être renouvelé. Mais il est malheureux. Il n'en est pas ici. Là, là. Il ne se passe pas grand-chose. Il est confortable. On vit dans un monde plein d'injustice, un monde plein d'inimitié contre Dieu. Mais dans ce monde de péché, Dieu fait proclamer l'évangile de la grâce. Et le Saint-Esprit rassemble un peuple. Un peuple qui a trouvé le salut et la paix par la foi au nom du Seigneur Jésus, Fils de Dieu. Donc, à présent, quiconque est ajouté par Dieu à sa chère assemblée, à l'Église, doit être baptisé selon les directives de l'Écriture. Dans l'ère présente, on appelle ça l'ère du salut, on est en outre unis à un Sauveur qui est rejeté. Et il n'y a plus au Saint-Esprit d'enseigner aux apôtres, non seulement à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais aussi en invoquant le nom du Seigneur Jésus, comme cela eut lieu pour le baptême de Paul et de plusieurs autres après. Pourquoi tu tardes? C'est quoi le fait d'attendre? Ne trouves-tu pas aussi que c'est un incomparable privilège d'invoquer dans le baptême le nom qui aussi méprisé soit-il dans ce monde de ténèbres rempli maintenant nos cœurs? Pourquoi on devrait être joyeux? Parce que le nom du Seigneur Jésus est dans nous. L'Esprit Saint est dans nos cœurs. Je termine en disant le nom par lequel nous avons trouvé le salut et la délivrance, le pardon de nos péchés et la vie éternelle. C'est ça. C'est ça maintenant. On invoque le nom du Christ qui n'est plus sur la terre avec ses disciples, mais qui habite au ciel et qui réunit désormais, lui là-haut et ici-bas, tous ceux qui croient en lui. On n'invoque pas le nom d'un roi, mais le nom de Jésus, le roi des rois. Le nom qui est le plus haï sur cette terre. Cependant, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il sera avec les siens, c'est-à-dire avec nous, les croyants, jusqu'à la fin du monde. Papa du ciel, Seigneur notre Dieu, puisses-tu bénir ton assemblée, puisses-tu parler à ceux qui n'ont pas une relation personnelle avec toi, puisses-tu aussi parler pour ceux qui n'ont pas encore obéi pour être baptisés. Seigneur, je te prie pour que, Seigneur, que nos vies puissent changer. Qu'on puisse avoir un changement radical dans nos vies. Que ça puisse se voir, que ça puisse se sentir que nous sommes différents du reste du monde. Besoin de ça. Il ne faut pas ressembler au monde. Il faut être restaurer ceux qui sont sauvés. Cette transformation. Père, on doit te ressembler de plus en plus à tous les jours. Merci, Père, pour l'œuvre du Christ à la croix. Que ton nom soit béni par Jésus. Que ton nom soit glorifié.